Salut Charline.
Alors, moi, je suis au taquet. Hein. Ah, bon. Oh, bah, j'ai déjà tous les sujets. Alors, en 1, Édouard Philippe et son orchestre.
Ah, il est chef d'orchestre aussi, lui.
Non, je pense qu'elle parle du gouvernement.
Ah, oui.
Alors, en 2, les cafés sans wifi. Okay. Et en 3, j'ai trouvé un article sur la mémoire des comédiens.
Ah, bah, super. Ah. Allez, qui prend un café?
Alors, on trouve les sons d'abord.
Pardon.
Mais tu vois ces petits extraits de films et de sketchs qui illustrent les thèmes?
Oui, je vois. Oui, j'ai déjà écouté l'émission.
Oui, on essaie d'en trouver au plus vite et puis comme ça, on gagne du temps.
Pour Édouard Philippe, il y a deux Funès dans l'orchestre.
On a déjà beaucoup passé de Funès.
Bah ouais, c'est vrai. Attends, moi je mets mon casque, j'ai peut-être une idée.
Est-ce qu'on passerait pas une interview de Karajan en allemand?
Alex, les sons, ça doit être drôle.
Ouais, il n'est pas très drôle, Karajan, surtout en allemand. Ouais.
Moi je propose un son pour les cafés sans wifi, alors c'est dans la soupe au chou.
Mais c'est encore du de Funès.
Oui, mais il y a Jean Carmet.
Pourquoi elle rit, elle?
C'est pour elle regarde une chronique à moi, je pense.
Non, elle regarde un film.
Mais oui, pardon, je regardais l'esquive, j'ai un super son pour les acteurs et la mémoire.
Ah, bah super, je vais l'écouter.
Ah, bah c'est bête parce que j'en avais un aussi.
Dans Les Gendarmes de Saint-Tropez?
Non, pas du tout.
Ah bon, dans quoi?
Bah dans Le Gendarme se marie.
Non, mais tu vas arrêter, oui, t'as fait un 2-1 de Funès ou quoi?
Ah, si c'est comme ça, je vais regarder des faits passifs et passifs.
Bon, alors on n'a pas avancé. Alors Alex, t'aurais pas une idée?
Pour les comédiens et la mémoire, moi je pensais peut-être trouver le son d'un comédien qui perd la mémoire.
Ah, génial! Comment ça t'est venu cette idée?
Association d'idées, mémoire, comédien,
bien. Ouais, bah non, c'est nul, voilà, c'est pas original. C'est pas décalé. Oui, bah cherche autre chose, n'importe quoi.
Ouais, sauf du de Funès.
Bah voilà, Non, mais vous me fatiguez, quoi. Si les gens savaient le temps qu'on passe à trouver des sons. Hein.
Avec leur argent en plus.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui constate qu'il fait plus chaud depuis que Macron est au pouvoir. Et voici les trois informations qui vont faire perter le mercure de l'actualité.
Vous l'avez bien dit.
Oui, tout à fait. Ça démarre très 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 bien. D'ailleurs, nous avons un nouveau Premier ministre et demain un gouvernement tout neuf. Chouette, des nouveaux jouets. Tout neuf. Et encore une fois dormir parce que le casting est toujours en cours.
T'as ton univers à toi. Moi, je te veux dans mon équipe. Please.
Aux États-Unis, les cafés débranchent le Wi-Fi par crainte de se transformer en bureau. Certains établissements ont même recours à des tables très étroites où il est impossible de poser un ordinateur. Le café doit rester convivial.
Silence ! Je travaille, moi !
Les comédiens, les musiciens et les danseurs travaillent une même matière, la mémoire. Mais chacun a sa méthode pour retenir les textes à long terme, à court terme ou à plus de terme du tout.
Il ne se rappelle de rien, il est complètement amnésique. Il sait même pas qui est Michel Drucker.
Et moi, je suis accompagnée de celui qui accumule les textes très courts. C'est le spécialiste des proses très très brèves, c'est Alex Vizorek.
Mais oui, c'est chouette ces petits sons que vous mettez dans le sommaire, j'aime bien. C'est pénible à chercher, mais c'est chouette. Autour de la table, on a déjà le gouvernement. À 17h20, au ministère de la musique de qualité, ils ont longuement hésité entre elle et moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a été choisie. C'est vous, Mélanie Bauer?
Oui, bonjour.
Bonjour, de quoi on parle?
Aujourd'hui, on découvre la musique de Chouveni.
Très bien.
Ah oui, on la découvre. On va bien la découvrir.
À 17h30, au ministère de la mauvaise foi, il n'y a eu aucune discussion. C'est Guillaume Meurice qui l'a eu, évidemment.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je suis allé tâter la crédibilité de notre nouveau Premier ministre auprès du peuple de droite.
La France est de gauche depuis Colbert.
Voilà, de droite, vraiment, hein, vraiment de droite.
Et enfin, 17h40, celui qui briguait un seul poste, le ministère de la coiffure impeccable. Eh bien, alors, regardez, on sent bien qu'il ne l'a pas eu. C'est vous, Thomas VDV.
Absolument, bonjour à tous, échec. Bonjour Alex. Eh bien, je vais aujourd'hui parler comme beaucoup d'entre nous du nouveau Premier ministre et d'un de ses talents cachés que j'ai découvert sur internet. Je peux vous dire qu'on va se régaler. On va se régaler.
Allez, je me tourne vers celui qui a tout annulé pour nous. Vous démarrez au cinéma en 91 dans La Gamine d'Hervé Palu aux côtés de Johnny Hallyday et de Mai Wen. Vous êtes révélé 3 ans plus tard dans L'Appât de Bertrand Tavernier. Vous avez tourné avec Alexandre Arcadie dans 24 jours, entre autres. Vous jouez aussi au théâtre, vous jouez à la télévision et vous avez produit des courts-métrages, un format qui vous tient à cœur.
Je dis rien, j'interviens pas pour l'instant.
Non. Mais là, maintenant, vous pouvez dire qui vous êtes. Mais qui êtes-vous?
Olivier Citruc.
Oh, oui, yes, c'est lui.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue, Olivier Citruc.
Merci, merci.
On peut vous voir au cinéma, c'est à partir de demain, si je ne me trompe, dans Venise sous la neige, réalisé par Elliot
Alors, oui, c'est ça. J'attendais avec impatience.
Corvigaru.
Non, Covrigaru.
Covrigaru.
C'est pas si compliqué quand on lit toutes c'est les vrai. Lettres dans l'ordre.
Ça l'est moins que Vanhoenacker.
Covrigaru.
Elliot Covrigaru est le réalisateur de Venise sous la neige, avec entre autres Juliette Arnault. Arthur Juniau, Élodie Fontan, tout à fait. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre à succès. Deux couples amenés à passer le week-end ensemble parce que votre personnage, Olivier Sitruk, cherche à financer sa prochaine pièce.
Et c'est ça.
Tout part évidemment, comme souvent, d'un quiproquo, c'est-à-dire trois fois rien au départ. Votre compagne Patricia, qui est jouée par Juliette Arnault, ne dit pas un mot. Les autres finissent par penser qu'elle ne parle pas un mot de français. Elle s'engouffre là-dedans. D'où ma première question. C'est ça tout le sel du film et de la pièce de théâtre, bien sûr. Comment le quiproquo est-il poussé au paroxysme ?
La pièce est écrite par Gilles Direc. Voilà, pour le citer. C'est poussé parce que je crois que ça tient aussi sur le fait que mon personnage a besoin de demander de l'argent à la personne chez qui il va. Et qu'il peut pas dévoiler le quiproquo, il peut pas dévoiler l'astuce, il peut pas lui dire, voilà, on s'est disputé, c'est pour ça qu'elle me fait ce coup-là. Il n'a pas la possibilité de le faire parce que sinon il n'aura pas le pognon. Et donc il est coincé et ça monte jusqu'au moment où le sans dévoiler de surprise, le personnage joué par Arthur va lui dire qu'il va lui filer du pognon. Mais il va lui demander autre chose, etc. Et ça va s'emballer.
Et votre compagne dans le film, interprétée par Juliette, donc, prétend qu'elle vient de Chouvigny.
Ça fait quatre fois qu'on dit Juliette Arnault. Hein.
C'est vrai.
Il faut le placement de produit. Il faut qu'on le place combien de fois.
Après, il faut dire qu'il y a quatre personnages principaux et ensuite, il y a les personnages secondaires.
Normalement, c'est un peu comme les comédiens de la comédie française. On doit dire Juliette Arnault de si tu écoutes Jeanne.
Bien sûr.
Non, alors ça paraît comme ça. Alors, il y a aussi.
Non, mais elle est formidable. En plus, Juliette est formidable dans le film.
Voilà. Alors, c'est pas que par camaraderie, c'est aussi le fait que ce soit un huis clos, évidemment, ça part d'une pièce, vous êtes quatre. Qu'est-ce qui a été fait pour aller au-delà de la pièce de théâtre ? Dans l'adaptation cinématographique, est-ce que les personnages sont plus complexes ? Le décor est plus large, qu'est-ce qu'on fait?
Alors je suis pas totalement sûr que les personnages soient plus complexes. Moi j'ai pas vu la pièce de théâtre, j'ai pas lu la pièce de théâtre, donc je ne connais pas vraiment la différence. Je sais juste que on est obligé quand on passe au cinéma de commencer par des extérieurs, de faire arriver comme dans Le Prénom d'ailleurs, ouais, ou comme dans toutes les adaptations qu'il y a eu, on est obligé de passer par l'extérieur pour les amener à l'intérieur et pour les laisser ensuite à l'intérieur pour l'expliquer. Donc il crée un environnement sur mon personnage qui il me semble n'est pas dans la pièce de théâtre, c'est-à-dire la mise en scène, le théâtre, et il met une mise en abîme à ce moment-là, lui, par rapport à la pièce, par rapport au fait que nous, on est adapté d'une pièce, il le met en abîme, et il va le mettre en abîme jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc il a trouvé cette astuce-là, Elliot, pour donner un peu de matière, un peu à tout le monde, dans l'histoire. Donc c'est la grosse partie qu'ils ont inventée, et surtout celle-là.
C'était une volonté de pas la voir, la pièce, justement?
Non, c'était par flemme.
C'est parce qu'elle se jouait plus là à Paris. Il n'y a pas une capta. Enfin, vous n'êtes pas dit, tiens, oui, comment ça se joue? Parce que,
en fait, d'abord, je suis arrivé assez tard sur cette histoire, et ensuite, ça me fait penser. Alors, ça n'a aucun rapport. Hein. Mais bon, je vais en parler quand même. Mais quand j'ai fait l'appât de Tavernier, la première chose, j'étais un jeune acteur, et la première chose que j'ai dite à Tavernier, c'est, je lui ai dit, moi je veux rencontrer le type à qui c'est arrivé, parce que c'était une histoire vraie et tout ça, qui était en prison et tout. Je dis, moi je veux rencontrer, je veux machin. Et il me dit, mais top, on s'arrête tout de suite.
Acteur studio, quoi.
Voilà, moi j'étais complètement
Al Pacino.
Exactement. J'étais sûr que j'étais Al Pacino dans ce film. Et d'ailleurs, quand je regarde le film, je me dis, mais comment je joue, c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, il me dit, non, tu arrêtes tout de suite, c'est un scénario, c'est un personnage, et c'est comme ça qu'il faut le travailler. Et donc là, je crois que ça m'a aussi un peu appris mon métier par rapport au cinéma. Il faut essayer d'être le plus proche d'un scénario et d'une histoire, parce que le scénario n'est pas la réalité, en fait. C'est jamais un documentaire qu'on tourne, c'est toujours une fiction. Donc c'est toujours des personnages, même quand on fait 24 jours le film d'Arcadie, même s'il est très proche de la réalité, on est quand même inspiré de la fiction.
Eh bien, Venise sous la neige, ça sort demain d'Eliott Kovrigaru, avec Olivier Sitruk, notre invité, Arthur Juniau, Élodie Fontan et Juliette Arnault. Et Olivier Sitruk est avec nous jusqu'à 18h.
I can't, I can't stand losing, I can't, I can't, I
Can't Stand Losing You. Olivier, ces trucs, est-ce que vous vous rappelez du titre de l'album ou pas?
Bah, je dis autant dose d'amour, mais...
Je me souviens pas.
Merci, très bonne intervention de Mélanie Bauer.
C'est
un des deux. On n'a que des musicaux autour de la table, il n'y en a pas un qui peut nous dire quel est l'album d'Alice.
C'est Sting qui chante. Ça, je sais.
Parce qu'Olivier Citruc nous disait que c'était votre premier album que vous avez acheté.
C'est ça. Et je disais que c'était par rapport à la mémoire, hein, par rapport au sujet dont vous parliez. Je me souviens exactement des bacs à disques, du disquaire, de moi qui cherche dans les bacs et qui veut acheter cet album. C'est le premier 33 tours que j'ai acheté.
Mais pas du disque.
Et je me souviens plus combien je l'ai payé par contre.
Ah, on a entendu les voix de qui, Alex Vizorek?
On a déjà entendu beugler Thomas VDB. Il n'a rien dit parce que c'était de la musique. Et Guillaume Meurice et Mélanie Bauer, évidemment.
Allez, l'information.
Ce que je veux, c'est...
Le journal de presque 17h17.
Parce que c'est notre projet.
C'est magnifique ce projet. On commence par les titres.
Selon un sondage, 57% des Français estiment ne pas connaître assez Édouard Philippe pour savoir si sa nomination est une bonne ou une mauvaise chose.
Ce qui est fou, c'est que des Français n'aient pas d'avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Chapeau à vous, vous progressez.
L'événement du jour, c'est Francis Lalanne qui sera candidat aux législatives dans l'Essonne, où il sera face à Manuel Valls.
Là, je dis stop. Il faut arrêter l'humiliation de Manuel Valls parce qu'il pourrait même perdre.
C'est vrai. Il y aura des brèves.
C'est difficile d'en trouver une meilleure que Francis Lalanne se présente contre Manuel Valls, mais je vais essayer. Et on commence donc par notre président.
Toujours, bien sûr. Emmanuel Macron a reçu ce matin le Comité international olympique.
Et ils ont homologué le record d'Alexis Kohler pour l'annonce du Premier ministre la plus rapide de l'histoire.
C'est sûr, il ne s'est pas éternisé. Oui.
Non, et sur Public Sénat, ils en ont eu pour leurs frais, parce que ça faisait donc 6 heures qu'on attendait l'allocution, quand tout à coup la présentatrice, elle le voit arriver, mais l'intervenant n'a pas vraiment fini. Regardez comment elle gère.
Si Édouard Philippe est nommé Premier ministre, il est vraisemblable qu'un ou deux responsables élus de droite le suivront. Ah, je crois que...
Alors que vous le voyez à l'instant depuis le perron de l'Élysée pour cette annonce en direct.
Je vous remercie.
Et bim, le gros raté, 6 heures d'attente.
C'est dommage. Et après c'est ce moment pas. Bref mais intense, Édouard Philippe est devenu Premier ministre.
Oui, et donc selon un sondage, 57% des Français estiment ne pas le connaître assez pour savoir si c'est une bonne chose.
Incroyable, hein, ça fait 43% des Français qui estiment connaître suffisamment Édouard Philippe. Mais ça, c'est
improbable. Allez,
et hier, après la nomination, Emmanuel Macron s'est envolé pour Berlin afin de rencontrer Angela Merkel.
Oui, elle lui a déclaré son amour en littérature.
Wir haben ja das schöne Wort von Hermann Hesse, allem
Hermann Hesse a dit qu'au fond, tous les débuts étaient magiques. Là, il s'agit du début d'une relation, mais la magie ne pourra durer que s'il y a effectivement des résultats.
C'est beau les débuts, mais il faut des résultats.
C'est beau, surtout qu'on a connu 5, hein, c'est ça, je crois. 5 exemples, c'est incroyable.
Les 4 autres se souviendront.
C'est dingue.
En général, quand une femme me dit ça, moi je reste pas. Mais on...
Et après, ils sont allés dîner.
Oui, et la chancelière a donc proposé gentiment de manger une bonne saucisse traditionnelle, ce à quoi le président a répondu...
Pas ça.
Évidemment, lui, son truc, c'est plutôt Ein Blaues Band, un corps cordon bleu, évidemment.
Oui. Passons aux législatives avec cette info improbable.
Dans sa circonscription, Manuel Valls n'aura pas de candidat En Marche, n'aura pas de candidat PS, mais il sera confronté à Francis Lalanne.
Le chanteur sera en effet suppléant d'un candidat du mouvement 100% la force éco-citoyenne à Évry.
Bref, à Évry, ils auront le choix d'un côté entre quelqu'un qui lèche les bottes et d'autre, quelqu'un qui en porte. Donc pourquoi pas.
Il faut voir le point positif, il y a des chances que la campagne l'occupe suffisamment pour ne pas faire de disque.
Exactement, et s'il est élu, ça nous préservera pour 5 ans, donc réfléchissez.
Éducation à présent.
Oui, le clitoris, représenté pour la première fois en détail dans un manuel scolaire.
Oui, c'est un collectif de professeurs de SVT qui a félicité sur Facebook la décision des éditions Magnard d'avoir, je cite, « pris en compte l'anatomie complète du clitoris dans son schéma d'appareil sexuel, contrairement aux autres manuels scolaires dont les schémas sont faux ou incomplets ».
Et vous dites, c'est chez quel éditeur?
Les éditions, c'est Magnard.
Donc, Magnard, je note. Voilà, passons au sport.
Oui, cette année, Roger Federer manquera Roland Garros.
Ah, bah ça lui fait un point commun avec tous les tennismans français.
Allez, une brève.
Oui, elle est pas mal. Bretagne, contrôlé à 3,7 grammes d'alcool après un accident, il dit à son procès : j'ai bu 2 rosés et je crois qu'on a dû me droguer. Et bah ouais, mon pote, et cette drogue, elle s'appelle l'alcool.
Olivier Citruc est avec nous jusqu'à 18h. Vous pourrez le voir en salle demain dans le film Venise sous la neige. Avec
un film de qui ?
Eh bien, d'Eliott Kovrigaru.
Ah voilà,
d'accord. Oui, adapté d'une pièce de Gilles Direc.
C'est exact.
Voilà. J'ai travaillé mon petit devoir avec Arthur.
C'est la seule comédie qui sort demain d'ailleurs. J'ai vu ça dans les.
C'est toujours bien.
La seule comédie. Donc, je dis, si demain vous avez envie de rire,
il y a le dépléchant aussi, non?
Je peux pas le dire non plus.
Il y a le gouvernement vers 15h aussi. On va dire,
ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, sur grand écran, c'est Venise sous la neige. Voilà ce premier sujet. Le Premier ministre a donc été nommé hier. Ça va à une vitesse en France. Oh là là, c'est, pour un Belge, c'est fulgurant cette nomination. Et en ce moment, le gouvernement est en cours de formation. Alors voici comment ça se passe. Nous avons mis un micro en coulisses. Édouard Philippe aux commandes du casting.
J'imagine aisément l'émotion qui vous étreint aujourd'hui. Car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire et de la célébrité. Malheureusement, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quatre d'entre vous, j'ai bien dit quatre, pas cinq, deux prendront place à la droite du Christ et deux autres à la gauche du couscous.
Qui fait couscous? Ce n'est pas d'information pour l'instant. En tout cas, c'est un extrait de Podium avec Benoît Poulvorde, bien sûr. Alors voilà, le Premier ministre, Édouard Philippe, il a votre âge, Olivier Sitruc, au mois près.
J'étais en train de me dire juste, c'est schizophrène, parce que de temps en temps, vous dites, nous, en Belgique, on a ça, et parfois, vous dites, ouais, notre Premier ministre et tout ça.
Quand ça les arrange,
c'est
notre vrai problème d'intégration.
Ouais, d'accord. Que les Français, je rêve. Quand il y a un Français qui perd, qu'il est franco-américain, vous dites, oh, il est américain, puis il gagne.
Absolument jamais.
Bon, bah, le vote.
C'était quoi la question?
Moi, je préfère dire votre Premier ministre, comme ça, je prends aucun risque ici, merde. En tout cas, il a votre âge, à un mois de différence.
Ah bon?
Alors, il est énarque. C'est le fils spirituel d'Alain Juppé. Il porte des boutons de manchette. Alors, j'essaie de me demander, est-ce qu'il est jeune ou est-ce qu'il est vieux par rapport à un politique?
Est-ce qu'on est dans le renouvellement politique, c'est ça, hein?
Est-ce qu'on est dans le renouvellement, d'après vous?
Bah, je sais pas, on l'a pas vu, on le connaît pas, donc pourquoi pas.
Vous l'avez découvert?
Oui, alors là, je connaissais pas du tout.
vous n'êtes pas seul.
Non, j'ai joué une fois au Havre, mais je crois que c'était un autre maire. Mais donc c'est comme ça qu'on les rencontre, nous les politiques. Ouais. On va jouer au théâtre, et puis enfin, tu dois savoir ça en croisant dans les théâtres.
Alex,
les
maires. Alex, vous savez ça, vous?
Mais
je demande toujours de quelle obédience ils sont.
Oui.
Pour alors, pas se retrouver. Ils disent tous plutôt centre. Donc
pas se retrouver comme Marine Le Pen avec le selfie de même placé. Donc non. Non, moi je trouve ça bien. Juste avant de venir, je relisais un truc de. Je crois que c'est Bernard Shaw qui disait les hommes politiques, c'est comme les couches, faut les changer souvent parce que. Ben voilà, à un moment. Sinon, ça sent la merde. On le connaît pas, mais c'est pour moi pas un renouvellement de la politique puisque c'est des gens qui sont fabriqués pour être des hommes politiques.
Oui, voilà.
Donc, en tout cas, il est immense, il fait 1m94. Deux pijadas.
Il fait deux pijadas. Donc Mélanie,
c'est notre politologue.
Et est-ce que vous êtes dans l'attente de connaître le ministre de la Culture?
Pas vraiment. Enfin, un tout petit peu parce que j'ai créé la première association d'acteurs il y a deux ans, qui s'appelle l'AFA, Actrice Acteur de France Associée. Et donc j'ai entendu, et c'est une des choses qui m'a intéressé dans le discours de Macron, qui voulait un peu interroger, en tout cas, les associations sur les choses possibles à faire. Il n'y avait pas d'association d'acteurs, il y a des syndicats évidemment, mais il n'y a pas d'association. Donc,
et voilà, quel était le but justement de votre association?
Qu'il y en ait une, déjà, première chose, parce qu'en fait, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y a des associations de plein de choses et pas d'acteurs. Et voilà, pour au moins déjà qu'il y en ait une, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'interlocuteur acteur en fait, puisqu'il n'y avait pas d'association.
Oui.
Donc si on devait discuter, alors pas de prérogative sociale, hein, évidemment, on ne peut pas discuter avec les gouvernements. Des salaires ou des choses comme ça. Mais sinon, sur ce que veulent les acteurs, vers là où on veut aller, sur avoir juste discuté avec audience, avec l'AFDAS, avec enfin, tous les gens qui s'intéressent à nous, il fallait un interlocuteur. Sinon, on a parfois des acteurs qui prennent la parole, mais à titre individuel, en collectif.
Aux États-Unis, ça existait, c'est Ronald Reagan qui s'en occupait.
Ah oui?
Après, il a une petite carrière de politique.
Non, mais en France, je pense que Gérard Philippe, il doit le relancer à un moment, ils essaient de regrouper tout ça, et Gérard Philippe le fait aussi.
Édouard Philippe. Oui, c'est un beau lapsus.
Ouais. Non, c'est Gérard Philippe. C'est pas la même époque.
C'est
pas le même.
C'est
peut-être
vrai.
Qu'il est de la même famille, non? Non, je crois pas. Parce qu'il y a beaucoup de Philippe.
Ça serait sorti hier. Ouais,
même avant.
Ça saurait. Olivier Sitruc à vos côtés.
Donc vous voulez qui comme ministre de la Culture? Parce que ça vous intéresse aussi un tout petit peu, non?
Qui c'est qui pose des questions ici, mon petit?
Vous avez fait des sondages?
Qui est dans les rangs?
Mélanie Bauer, moi j'aimerais bien.
Ah, voilà une bonne idée.
De la bonne musique.
Oui. Puis moi je défendrai les artistes.
Ouais, qu'est-ce qu'on voudrait?
C'est vous?
Oui, c'est moi. Enchantée.
Enchantée.
Moi j'ai pas l'idée.
Est-ce que ça doit être un artiste ou pas?
Je crois pas, moi. Je pense pas. Ouais. Je pense pas parce qu'en plus, ça mettrait forcément la catégorie dans laquelle il est en avant. Donc, c'est pas le plus intéressant.
Moi, j'ai une idée. Moi, je propose que ce soit Mathieu Gallet qui soit ministre de la Culture.
Voilà. Ça a l'air d'être une bonne idée.
Allez, Mélanie Bauer.
Oui.
Qu'avez-vous à nous proposer aujourd'hui?
Eh bien, en hommage à Venise sous la neige, Olivier, où vous partagez l'affiche avec notre copine Juliette Arnaud, héroïne prise de tête qui s'invente une nationalité chouvenne, j'ai choisi pour vous et nos auditeurs de mieux comprendre ce beau pays qu'est la Chouvénie. Alors, ma méthode pour embrasser une nouvelle culture, maintenant que je suis ministre, c'est d'abord d'en étudier la musique, puis le vocabulaire. Ici, on est quelque part en Europe de l'Est, un pays pourri chez nous par la caricature et les préjugés, un pays forcément rebelle avec une diaspora importante. Son cri de ralliement pourrait être emprunté au yiddish, le fameux oi, cousin de l'interjection punk cockney anglais. Oi. Selon le rabbin Benjamin Blech, dans son guide The Complete Idiot's Guide to Learning Yiddish, on résumerait oi, tout comme le personnage incarné par Juliette, par toutes les douleurs du passé, tous les inconforts du présent et toutes les peurs du futur. Voilà ce que ça veut dire, oi. Oi, 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 c'est aussi le titre du dernier album de Amsterdam Klezmerben, que l'on pourrait aussi traduire par aïe, aïe, aïe. Et qui, ma foi, serait une parfaite bande-son pour ce pays imaginaire, sûrement baigné de cette musique klezmer, instrumentale et itinérante des Juifs d'Europe de l'Est. Un son que l'on écoutait déjà chez nous au XIIIe siècle, oui, aux côtés des troubadours de Provence. Alors, plus sérieusement, la musique klezmer, c'est une musique ancestrale, un mélange de sonorités populaires roumaines, russes, polonaises, ukrainiennes, lituaniennes, hongroises, grecques, ottomanes et bien sûr tziganes, cette culture traditionnelle des juifs ashkénazes qui voyagent depuis le Moyen-Âge et se mélange aujourd'hui à tout, au jazz, au dub, au hip-hop, au rock, à la techno. La musique klezmer se chante dans toutes les langues, elle est jouée par des artistes de toute origine, de toute religion, et porte en elle toutes les joies et les mélancolies des peuples migrateurs. Alors cette énergie du son klezmer, c'est celle de la dernière danse avant la fin du monde, un grand élan de vie et de partage face aux catastrophes. C'est celle... Thomas VDB, vous me faites peur quand vous me regardez comme ça.
Hyper attentivement l'histoire de la musique klezmer. J'ai peur d'être interrogé après l'émission. Ottoman et... Oh, ouais. Je sais plus.
Un grand élan de vie et de partage face aux catastrophes, c'est celle qui nargue l'ennui et la mort. Et vous avez de la chance, car à Paris, le 24 mai prochain, vous allez pouvoir croquer cette vibration avec les Hollandais de Amsterdam Klezmer Band. Ça se passe à l'espace Cardin pour un concert qui devrait faire pas mal bouger les frontières, puisqu'au côté de ces musiciens turbulents, il y aura en guest notre punk préféré de la douce France, Rachita, et son vieux complice musical, le virtuose franco-algérien de mandolute, c'est une forme de oud, Hakim Amadouche. On y sera, ce sera oi, ce sera fraternel et je suis sûre qu'on y croisera à tout plein de chouvennes.
Кукуру кукукару, я видать не ко двору, и людей безумный род спать мне не дает. Чирибим-бам, чирим-бом, прошибаю стенки лбом, утро, вечер и опять темпа не унять. Ежедневно утром рано, ищу правду у экрана, повторяем неустанно хитрый наш пароль. Батареи засыхают, жесткий диск перегорает, люди все на свете знают, а в кармане ноль. Люди все на свете знают, а как маминоли. Люди все на свете знают, а в кармане ноль. Поумнел народ и вот во все тяжкие он прет. Что увидит, то сопрет, с ними глаз да глаз. Заблудились мы в конец, кто не с нами, тот подлец. Кто перечит, тот наглец, душу съел моль. Ежедневно утром рано, ищи правду у экрана. Повторяем утром рано, хитрый наш пароль. Батареи засыхают, жесткий диск перегорает. Люди все на свете знают, а в кармане ноль.
Amsterdam Klezmer Band, Immigrant Song, on a écouté.
Non, c'était Kosek à la Korit.
Ah, bah bien sûr, c'est ce que je me disais.
C'est le même réalisateur que Venise sous la neige.
Hein, c'est vraiment c'est du Chouven. Ouais, c'est
très, très bon hommage à la Chouvénie, ce pays que Bernard Guettet est en train de chercher sur la carte, il est en panique. que vous pouvez, qui est évoqué dans le film Venise sous la neige d'Eliott Kovrigaru, avec Olivier Sitruc qui est notre invité, aussi Arthur Junio, Élodie Fontan, Juliette Arnault, et puis des seconds rôles comme Dominique Besnéard, Michael Gregorio ou Franck de la Personne, mais là vous y êtes pour rien.
Merci. Je crois qu'on peut le dire, c'est le dernier rôle de Franck de la Personne.
Bah, je sais pas, j'en sais pas. Rien. Je sais même pas si j'ai envie de commenter.
Bah, c'est voilà, pas pour commenter, c'est pour dire aux gens si vous voulez le voir.
Oui.
Non, mais n'y allez pas forcément.
Je pense que
ça.
Les gens ils savaient même pas qui c'était.
Bah, voilà, en fait, voilà. Allez, 17h37 sur France Inter. Guillaume Meurice, c'est à vous.
Bon, bah, je vais vous parler du nouveau Premier ministre, évidemment, Édouard Philippe. Un subtil mélange d'Édouard Balladur et de Gérard Philippe. On l'a dit tout à l'heure. Si vous voulez, quand on le voit, c'est Lorenzo Azzio, mais quand il parle, c'est Raymond Barre. Voilà, c'est une sorte d'ascenseur émotionnel sur pattes. C'est le prince charmant avec une haleine de facochère. Ça, c'est Édouard Philippe. Alors, c'est mon analyse. Attention, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais je vous rappelle que Franz-Olivier Gisbert est payé beaucoup plus que moi pour en faire des bien pires. Mais qu'en pensent les Français? C'est ma question du jour. Et particulièrement ceux de droite, hein, ceux pour qui Macron est de gauche. Hashtag lol. Je suis allé à Paris dans le quartier de Terne, qui porte bien son nom, le quartier de Terne. 40% de voix pour Fillon au premier tour. Hein, c'est pas le quartier Zouk Machine, c'est le quartier Terne. Voilà. Et donc, j'ai interrogé les habitants, des gens qui disent mais absolument n'importe quoi sur Édouard Philippe.
Il est intelligent, expérimenté et beau garçon, comme vous d'ailleurs.
Ah non, 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 ils disent pas n'importe quoi, pardon, non, non, l'analyse est précise, le jugement perspicace, j'aime bien, et j'aime bien aussi l'analyse de ce monsieur.
Il va se couper la barbe ou pas?
Ah, ça c'est votre préoccupation?
C'est pas la première, mais c'est une, oui.
Vous trouvez qu'il a trop de barbe?
De mon temps, ça n'existait pas.
Et non, de son temps, ça n'existait pas, les barbes, puisque l'inventeur de la barbe, c'est Karl Marx, hein, c'est vraiment un truc de gaucho. En revanche, de son temps, c'était le festival de la moustache, la fête de la rouflaquette. Hein. Jamais j'aurais pensé à dire rouflaquette dans une chronique. J'aurais jamais pensé dire Édouard Philippe, Premier ministre non plus, comme quoi tout arrive. Qu'est-ce qu'il en pense, cet autre citoyen?
Je pense que deux caïmans mâles dans le même marigot, ça donne toujours des étincelles.
Les caïmans vont faire des étincelles.
Les caïmans vont faire des étincelles, c'est caïmans assurés.
Bam, allez, c'est caïmans assurés. Qu'est-ce qu'il y a? On sait se marier à Terne ou pas? Hein? On va pas les rattraper les grosses têtes avec ça? Alors, est-ce qu'on va se marier avec Édouard Philippe? C'est quand même la question du jour. Le mec vient de chez Rocard, puis Juppé. Alors, a priori, c'est pas l'école du clown non plus. J'espère qu'il est davantage équilibriste que clown, d'ailleurs, Édouard Philippe, parce qu'il a voté contre les textes de parité, alors que Macron se dit pour. Il est pour le cumul des mandats, alors que Macron se dit contre. Alors comment on va faire avec ça?
Mais il va changer d'avis.
Ah, il va changer d'avis encore?
C'est-à-dire qu'il va prendre en lui ce qu'il y a de bien. Et le cerveau a cette possibilité de changer d'avis
Mais on a l'impression que le cerveau des politiques, il fonctionne bien, alors, parce qu'ils changent souvent d'avis.
Mais c'est pas une question. Bon, il y en a qui font ça pour l'opportunité, mais
vous pensez ?
Il y en a.
On en connaît, hein, comme on est. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et les types sont très intelligents, hein, Jean-Vincent Placé. Il a 8000 de QI, hein, je vous le rappelle. Alors, autre exemple de changement d'avis. On sait que Macron est très vigilant sur les casiers judiciaires. Et on sait aussi qu'Édouard Philippe a voté contre le texte de loi sur la moralisation de la vie publique. Qu'est-ce qu'on en pense de la corruption à Terne ?
Je pense pas que la corruption soit un argument contre des hommes politiques. Je préfère un homme un peu corrompu et efficace qu'un homme dogmatique qui soit pas corrompu.
La corruption ne nuit pas à la démocratie ?
Non, au contraire, elle en fait partie.
Ah, au moins on est décomplexé à Terne. Oui, oui, oui. On a une belle conception de la démocratie, hein, qui, je vous le rappelle, signifie pouvoir du peuple par le peuple pour Patrick Balkany. Mais il en avait pas fini sur la corruption.
Oui, bah encore une chose sur la corruption. Ça, je pense que c'est typiquement français, la corruption. Malheureusement, ça vient depuis très longtemps. Mais
Alors lui, il a voté contre le projet de loi sur la transparence.
Oui, mais la transparence... Enfin, je veux dire, beaucoup de fascismes sont anti-corruption. Les frères musulmans dans les révolutions arabes étaient anti-corruption. Hitler était anti-corruption.
Stop, le point Godwin, bravo. En 40 secondes, hein, chapeau. Alors je précise quand même que les dictatures sont précisément les pays où il y a le plus de corruption au monde. Hein. En Corée du Nord, Balkany, ce sera un puceau de l'abus de biens sociaux. Alors il y a une dernière chose intéressante dans le passé d'Edouard Philippe, c'est son poste de cadre chez Areva. J'ai donc parlé écologie avec ce même citoyen.
Bah encore une fois, l'écologie de la planète se change, elle se transforme. L'homme est une invention de la planète, la technologie est une invention de la nature et le réchauffement climatique fait aussi partie du devenir. Et quand on voit les tsunamis ou les tremblements de terre, la nature n'est pas forcément sympa avec nous.
Voilà, donc la nature, elle prendra bien dans sa gueule tous les déchets nucléaires, ça fera un partout balle au centre. Bon, on sera plus là pour jouer, mais bon, c'est pareil. Voilà, c'est tout pour Édouard Philippe. Hein, demain, on parlera du reste du gouvernement qui ressemblera à coup sûr à une bande de bisounours, mais qui parlera comme le MEDEF.
Guillaume Meurice, merci. Vous êtes sur France Inter en compagnie d'Olivier Sitruc et on va aborder ce deuxième sujet avec vous avant la chronique de Thomas VDB. Les anglo-saxons ont la manie de s'installer dans les cafés avec leur ordinateur pour travailler dans un environnement social convivial. Chacun derrière son écran, mais un frappuccino vanille caramel à la main. C'est la différence. Alors aux États-Unis, certains cafés ont débranché le Wi-Fi pour éviter d'être transformés en bureau.
Vous aimez, vous, le cybercafé ?
J'ai habitué à mon arabica, hein, El Gringo.
Oui, là, ça c'est ça. Oui, mais ça c'est. C'est une très bonne. C'est un bon café.
Oui.
Mais vous, dans les cybercafés, vous pouvez prendre votre café, puis en même temps, vous pouvez arriver à en même temps à pianoter sur Internet.
Oui, oui. J'aime bien être tranquille pour prendre mon café, moi.
Les déchets avec
c'était
François Morel. Morel et Olivier Saladin. C'est un article disponible sur lemonde.fr. Voilà, aux États-Unis, des cafés débranchent le Wi-Fi pour que les clients se parlent. Ça vous arrive, vous, de travailler dans un café, Olivier Sitruc, si vous devez écrire ou répéter? Vous n'attendiez pas à cette question.
Non, c'est pas ça. Non, c'est que je suis comédien, donc ça m'arrive assez rarement. Ou alors, vraiment, je ferais la manche, quoi.
Mais si vous produisez un court métrage, vous rencontrez,
je me pose une question, c'est complètement con, mais on a la 4G, c'est de l'internet, donc si on coupe le Wi-Fi, on aura quand même la 4G. Enfin, je veux dire, celui qui veut vraiment rester sur son téléphone. Donc, je pense que c'est juste une question de rester sur son téléphone ou pas. Mm-hmm. C'est juste de s'ennuyer ou pas. C'est juste de vouloir chercher des informations comme on fait tous, de se dire dans quelle année il est mort. Ah oui, ça va. On a tout de suite la réponse. C'est plutôt ce genre de truc là, mais moi ça me dérange pas tellement. Ça me dérange pas totalement les gens qui sont au téléphone et qui peuvent chercher. C'est quand on fait des trucs sur Facebook ou Twitter ou je sais pas quoi et puis que on parle pas avec les gens en direct, mais je fais des recherches comme ça, regarder, jeter un coup d'œil, ça me dérange pas, moi.
Vous êtes pas dans cette optique où vous imaginez que peut-être ça va évoluer et que tout le monde va se retrouver derrière son écran cafés.
Je fais partie des gens qui donnent des rendez-vous au café. Donc je donne des rendez-vous pour quelque chose. Donc en général, je parle du sujet pour lequel je suis venu.
Donc c'est forcément
convivial.
Plus
de sujet, je regarde Internet. Mais normalement, j'ai clos un sujet quand j'y suis allé.
L'article nous explique que le sociologue américain Ray Oldenburg parle de tiers-lieu. C'est un lieu qui n'est ni la maison, ni le travail. Mais dans la mesure où on ramène du travail à la maison, est-ce qu'on peut pas le ramener aussi dans les cafés ? Est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un d'entre vous, peut-être Thomas VDB, quand vous écrivez une chronique, ça vous arrive d'aller dans un café pour l'écrire, derrière l'ordi forcément ?
Alors j'écris pas mal dans les cafés, j'écris pas mal dans le métro. En dans la radio aussi. Et 4 minutes et avant de commencer l'émission aussi, régulièrement. Là, je suis en train de terminer mon lancement, je vais faire dans 2 minutes. Donc voilà, moi, c'est vraiment, je choisis mes moments comme ça.
D'accord. Et alors, si vous arriviez dans un café et que le serveur vous dit, bah non, vous pouvez pas rentrer parce qu'avec l'ordinateur. Non, je vous pose une question.
Ouais, non, moi, je vous la pose à vous, Charline Vanhoenacker. Hein, est-ce que ça pourrait vous arriver, ce genre d'histoire?
Oui, ça pourrait être très fort m'agacer. Mais...
parce que ce sujet, Olivier, ces trucs étaient choisis pour suite à un problème de vie quotidienne qui est arrivé à c'est notre camarade.
C'est un article du Monde.fr, on l'a retrouvé ce matin.
Oui, mais
ils en écrivent d'autres.
Qui n'est pas sans faire écho à l'histoire de votre vie. Mais on vous a chassé d'un café hier soir.
Oui, je me suis fait chasser hier soir.
Parce que vous écriviez cette chronique.
Oui, je voulais écrire ma chronique du matin dans un café. Il n'y avait rien dans mon frigo, je me suis dit je vais aller au café en bas de chez moi comme d'habitude. Et puis la serveuse m'a dit ah non parce que
je
dois
aller au pain quotidien, non c'est pas ça, c'est pas des trucs belges.
Voilà, vous voyez les Belges on est connus,
on est retourné chez elle à la maison, mais elle était vénère.
J'étais
fâchée. C'est con, talentueux.
Quel café, des noms, des rues.
Je l'aurais pas fait s'il y avait pas Le Monde qui en faisait un sujet, je trouvais ça intéressant.
Peut-être que la serveuse a réglé ses comptes aussi, peut-être que c'est une fan de François Fillon par exemple, elle a reconnu Charline.
Non mais je me suis posé la question, dans le fond c'est vrai, si tous les gens dans le café étaient derrière leur ordi, peut-être ça m'énerverait aussi.
La convivialité dans le café, c'est le calva, ça s'appelle.
C'est vrai. C'est le lubrifiant social. Tout à fait, vous avez raison. Allez, là-dessus, en parlant de lubrifiant social, le rire aussi, c'est Thomas PTP.
Eh bien, absolument, je vous propose tout de suite d'ouvrir cette actualisique en forme d'hommage à notre nouveau Premier ministre. Tournons ensemble une autre page de ce nouveau livre appelé Actua Philippe. Tu naquis à Rouen un beau jour de novembre pour plus tard devenir Premier ministre de France. Alors que depuis tout ce temps, on te connaissait pas. Pour la plupart, on ignorait même ton existence. Hey, Édouard Philippe. Hey, Édouard Philippe. Hey, Philippe, c'est ton nom. Édouard, c'est ton prénom. Hey, Édouard Philippe. Hey, Édouard Philippe. Hey, le tout premier ministre d'Emmanuel Macron. Voilà, donc un générique.
C'est très très beau.
J'ai terminé donc 5 minutes avant que Charlie me pose la question, il y a 2 secondes. Big up à Edouard, ou plutôt Ed Phil, hein, Edouard Philippe, Ed Phil, comme on l'appelle déjà dans les bureaux d'En Marche, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ça s'affaire déjà autour de lui, on dit, tu sais où il est Ed Phil, il est en brainstorm pour le package ministériel. Voilà, on est vraiment dans le langage En Marche. Edouard Philippe donc s'inscrit dans la grande lignée des noms-prénoms, hein, voilà, donc qui a 2 prénoms, je pense à Xavier Bertrand, il y a Émile Louis, Guillaume Maurice, il y a Patrick Simpson-Jones, à condition évidemment qu'on admette Simpson-Jones comme un prénom. Évidemment. Alors aujourd'hui, tout le monde lui tire un peu dans les pattes, quand même, je trouve, à ce pauvre Édouard Philippe. Et je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une interview qu'il a donnée à Europe 1. Ça date de 2013. Alors à l'époque, il était à l'UMP. C'était juste avant qu'il rejoigne Macron, mais c'était donc après son passage au Parti Socialiste. On écoute, c'est croustillant.
Giscard méchant.
Ah oh, il a la dent dure. Ah ouais. Je lui explique comment marche l'UMP, j'essaie de lui expliquer comment c'est organisé. Il m'écoute très poliment, et puis il me regarde, et puis... je crois que c'est intéressant. Ça ne marchera pas pour 2 raisons. Alors, la première, c'est que vous avez voulu structurer la vie politique autour de 2 grands partis sans changer le mode de scrutin. Comme vous n'avez pas changé le mode de scrutin, ça ne marchera pas.
Voilà. Et l'interview, il la donne entièrement en Valérie Giscard d'Estaing. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Un nouveau Premier ministre qui est aussi imitateur. Alors, je dis c'est top. Alors bon, il n'est pas imitateur. Je dirais qu'il est plutôt imitateur d'imitateur. Hein, parce que là, il imite Thierry Leluron qui imite Giscard. Mais apparemment, il sait aussi faire Sarko. Bon, il a un super répertoire. Bon, c'est vrai que quand on est homme politique, voilà, le métier consiste aussi à avoir le plus de voix possible. Mais voilà, le gars, tu dis Jean Gabin, il part en quart de tour, il dit oh, je vais te dire. Parce que bon, ça, c'est remarqué une chose, c'est que tous les gens qui imitent Jean Gabin, qui tu lui dis imite Jean Gabin, toutes les phrases commencent toujours par oh, je vais te dire. Et donc ça, il n'y coupe pas, c'est pareil. Alors, mais c'est vrai que on peut dire peut-être que le monde de l'imitation française n'a pas eu beaucoup son mot à dire sur les questions politiques ces dernières années. Et il faut voir combien peut-être ce talent d'imitateur du nouveau Premier ministre va peut-être aussi nous aider à assouplir des relations internationales. On peut imaginer Édouard Philippe qui fait un discours peut-être en Égypte. J'ai bien conscience du fléau que représente le terrorisme à l'heure actuelle. Et nous continuerons à le combattre pour renforcer la sécurité. Mais toutefois, n'oubliez pas que Bac sur le Nil, oh, Val sur le Fil, voilà. Et je dis que c'est quand même bien aussi d'amener cette petite note de bonne humeur. Et je voulais le remercier. Sachant que la différence quand même entre Claude François et Édouard Philippe, évidemment il y en a une, hein, étant que le premier a perdu la vie à cause de l'électricité, alors que le second a gagné la sienne grâce au nucléaire. Alors bon, ça ce sont des choses qui se recoupent comme ça. Et c'est là qu'on voit que Macron finalement est certainement plus stratégique qu'on l'imagine dans ses choix. Parce que vous n'ignorez pas que récemment, l'imitateur Gérald Dahan... se présente aux législatives derrière Mélenchon. Et apparemment, c'est ce que Macron a trouvé de mieux à faire pour faire main basse sur les insoumis, créer une sorte de contre-feu avec un autre imitateur. Et si, voilà, l'avantage, ça pourrait faire des débats peut-être plus fun, je le dis. On peut imaginer un débat avec Gérald Dahan, Édouard Philippe. Gérald Dahan qui est là, je dis, écoutez, Édouard Philippe, il faut démanteler le parc nucléaire. Et là, il y a Macron qui est derrière Édouard Philippe qui dit, vas-y, fais Chirac, réponds-lui en Chirac. Et là, Édouard Philippe, il se lève, il fait, écoutez-moi bien, crotte des craniches. Et je suis à fond pour le nucléaire, et crac, crac. Et là, je sais pas, il y a Franck de la Personne qui passera à ce moment-là, et qui ferait salut, ça va? Et les deux autres, ils diraient, mais c'est quoi cette voix que tu fais? Bah, c'est une voix que tu imites. Non, c'est pas une voix que j'imite, c'est une voix que je trouve qui est marrante, que je fais comme ça. Et l'autre, tu dirais, oh, c'est un peu nul. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté.
Merci Thomas VDB. Vous avez écrit dans un café.
Absolument. Mais j'ai renversé, j'ai ma tasse. Que
vous, vous avez écrit dans une bière.
Exactement.
Pas bu que de l'eau, c'est ça. Merci. Olivier Sitruc est avec nous et en ce moment, vous êtes au théâtre aussi, au Splendide, dans Rupture à domicile de Tristan Petit-Gérard à 20h. Et en septembre, vous jouerez du Goldoni, Les Jumeaux Vénitiens au théâtre Héberto, mois de septembre.
C'est ça. Et vous le dites très bien. Rupture à domicile, c'est une pièce qu'on reprend, qu'on a joué déjà, enfin, que j'ai déjà joué au moins 200 fois. Donc voilà. Et là, je le reprends pour deux mois. Je connais bien le texte.
Eh ben justement, on va en parler parce que les comédiens, les danseurs et les musiciens pratiquent tous un art en commun, l'art de la mémoire. Le journal La Croix y consacre un dossier aujourd'hui pour comprendre par exemple comment Didier Sandre a tenu 11 heures de spectacle dans Le soulier de satin de Claudel. Allez, prenez exemple les jeunes.
Je voudrais bien pouvoir baisser ces petits mots-là, lecture sur ma bouche avec la tienne.
C'est pas sur ma bouche avec la tienne, c'est sur votre bouche avec la mienne.
C'est... Ouais, bah c'est pareil.
Quoi, c'est pareil? C'est pas pareil. Tes mains. Je voudrais bien pouvoir poser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Votre bouche avec la mienne et ta bouche avec la mienne, c'est pas la même chose. Je suis désolée, Théma. L'auteur, il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. Si tu commences à changer le texte, bah c'est moi aussi, je vais changer le texte, je vais mettre n'importe quoi. C'est pas possible.
C'est Sarah Forestier et Osman Elkaraz dans L'Esquive. Ah ouais. Eh oui. Olivier Sitruc, quelle est votre méthode, vous, pour mémoriser?
Alors, j'étais là il y a 5-10 minutes avant vous, hein, donc j'ai lu l'article de Science et Éthique là, de La Croix, ouais. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Didier Sandre. Je crois qu'on apprend bien les rôles que si on les comprend bien. Mm-hmm. Donc déjà, la première étape, elle est vraiment là-dessus, sur bien comprendre ce qu'on raconte. Et je crois que c'est plus facile de mettre des mots à ce moment-là, de mettre les mots de l'auteur. Et il parle aussi d'autre chose. Enfin, moi, c'est la seule méthode qui s'applique, que j'arrive à appliquer vraiment bien, c'est d'être dans les mouvements et dans les sentiments. En fait, en répétition, c'est là où j'apprends beaucoup plus. Alors, il y a des comédiens qui préfèrent apprendre leur texte à la maison, ou par exemple, de l'écrire. J'ai pas mal de collègues qui écrivent. Ouais. Et en fait, ça s'inscrit, il y a une mémoire. Moi, je préfère le retrouver dans les mouvements, dans les sentiments, dans le rapport avec les autres qui vont mettre des temps, etc., etc. Je préfère le faire dans ce travail-là et comme ça rentre progressivement. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, parce que c'est vraiment la première question qu'on nous pose quand on sort d'une pièce de théâtre. Hein. Mm-hmm. La première question qu'on nous pose, ça doit être pareil en spectacle, vous connaissez bien le texte. C'est ça, mais comment vous faites pour... je l'ai répété quand même pendant, en général, entre 6 semaines et 8 semaines quand même, le spectacle. Donc en fait, si je vous mets dans une salle et vous répétez pendant 8 semaines, vous allez l'apprendre de la même manière que moi. J'ai rien d'exceptionnel, quoi.
Et vous,
nous, la deuxième question qu'on a, c'est est-ce que Charline, elle fait un spectacle? La deuxième question qu'on a en sortant de scène.
Et alors, il y a une réponse ou
pas? Non, je ne fais pas de spectacle.
Mais non, elle n'a pas de mémoire.
Justement, vous qui jouez pour le cinéma, qui jouez au théâtre et qui jouez aussi pour la télévision, est-ce que le temps de la mémoire au niveau de l'apprentissage est le même?
Non, c'est évidemment pas le même, puisqu'il y a des répétitions et que les répétitions, on les a uniquement au théâtre en général, hein. Au cinéma c'est extrêmement rare. Donc, alors moi au cinéma j'ai une bonne mémoire immédiate. Donc je prends pratiquement pas mon texte. En
fait. Est-ce que vous apprenez les répliques des autres? Stéphane de Groot me disait que Clavier, il arrivait sur un tournage en connaissant et ses répliques et celles des autres.
Alors moi je préfère répéter en fait. Je préfère prendre le temps de répéter et comme ça je sais ce que raconte l'autre en général. Ouais. Quoi. Voilà, je préfère qu'on répète comme ça, parce que il y a peu. En tout cas, moi, j'ai tourné avec très peu d'auteurs réalisateurs. Mmh. C'est-à-dire, en fait, très peu de scénarios qui ne pouvaient absolument pas bouger. Donc, on se retrouve très souvent avec des scénarios de cinéma où on va quand même un tout petit peu bouger la matière. Et vous savez pas comment l'autre va la bouger. Donc, le temps de cette répétition, en général, le temps du maquillage, se passe où on essaie de comprendre ce que va dire l'autre, ce qu'il va faire, comment il va le dire, comment il va le faire. Voilà. Et
Je pense que c'est là le meilleur endroit pour apprendre, mais il faut surtout savoir ce qu'on raconte.
C'est la méthode Citruc qui confirme donc la conclusion de l'article, qui nous explique que plus on va profond dans le sens, plus il est facile, aisé de retenir.
Dans l'article, il y a une chose qui me fascine, que j'arrive pas à comprendre et qui me déprime aussi énormément, ouais. C'est que ça finit par le. C'est une dame qui parle, je crois, qui est professeur des écoles, et qui dit qu'en fait, notre meilleure mémoire, elle est à 10-12 ans.
Ah mince.
Et qu'ensuite, notre cerveau.
Décline. Alors vous savez quoi, alors ce qu'on va faire, c'est que le mieux, c'est qu'on va lire alors, Olivier Citruc. Voilà.
Si vous aimez répéter, vous n'allez pas être déçu par la dernière séquence de l'émission, puisque le sketch vous tombe dans les mains et vous avez une chance pour être bon. Tous les jours, l'invité découvre. Et je vous donne le thème du sketch. Sur BFM TV, sur CNews, ils doivent beaucoup meubler parce qu'ils attendent beaucoup. Et on s'est dit que peut-être dans les écoles de journalisme, il faudrait ouvrir une section meublage. Alors on se rend tout de suite dans une école. On est tous élèves. Charline est intervenante et Guillaume est professeur.
Bonjour à tous, étudiants journalistes. Alors, vous avez choisi l'option meublage. Qu'est-ce que meubler? Comment meubler? Où meubler? Avec qui meubler? Et meubler quoi? Telles sont les questions que l'on peut poser quand on veut précisément meubler. Je vous présente votre professeur Apolline Vanhoutel-Krieff, journaliste politique à BFM News.
Oui, et éditorialiste et intervieweuse politique diplômée en 2005, spécialisée en affaires extérieures et géopolitique.
Madame, vous dites ça pour meubler?
Exactement, et vous irez loin, vous. Hein. Alors, meubler, c'est simple, il y a 10 étapes, on va faire une petite mise en situation. Édition spéciale, Olivier, vous êtes en direct d'un lycée pour les résultats du bac.
Oui, je suis ici devant le lycée.
Ah, mais non, attendez, c'est beaucoup trop direct. Étape 1, à fond, les locutions adverbiales.
Oui, en effet, bien sûr, en ce moment, à l'heure actuelle. Du reste, en somme, si besoin est de le préciser, je suis donc devant le lycée Jules Ferry, où les résultats du bac sont sur le point d'être révélés.
Oh, mes oreilles saignent, là, c'est de l'indicatif présent. Non. Règle numéro 2, meublé, c'est au conditionnel. Hein,
devant le lycée Jules Ferry, où les résultats du bac seraient sur le point d'être révélés dans exactement 14 minutes.
Non, attendez, règle 3, un bon meublage, c'est une info pas précise.
Hein. Où les résultats du bac seraient sur le point d'être révélés dans exactement un certain temps.
Voilà, règle 4, une anecdote historique dont tout le monde se fout. Hein, si...
Le lycée Jules Ferry, dont nous fêtons le 124e anniversaire de la mort, mais qu'il fait beau aujourd'hui, dites donc.
Ah, la météo, très très bien, c'est la règle numéro 5. Hein.
Des températures de 26 degrés. On nous dit aussi 26,2 et selon les d'autres sources, 26,25 degrés.
Multiplication des sources, autocorrection des infos, règle 6, très fort. Hein.
Et
il coince, alors comment Olivier peut-il relancer l'intérêt du spectateur?
Interroger un expert.
Presque. Oui.
Interroger un badaud.
Très bien, voilà, règle numéro 7, le badaud idéalement, celui qui a l'air le plus bête.
Ok Thomas, comment vous sentez-vous?
On n'a pas le choix, hein, j'ai envie de dire, on verra mon pote.
Vous êtes content, les vacances s'approchent?
Mais c'est pour quelle chaîne? Ça passe quand? Est-ce que je peux juste faire coucou à mes potes, à ma famille?
Vraiment, règle
juste
numéro 8, une conclusion de merde où tu penses à la place des gens.
Ouais, on sent en effet l'incertitude teintée d'insouciance et une envie de proximité de la nature en attendant les résultats qui devraient, je le rappelle, arriver d'une minute à l'autre.
Parfait, 6 heures comme ça, vous meublez Matignon sans problème.
Madame, vous aviez dit qu'il y avait 10 règles.
Ouais, vous savez pourquoi j'ai dit ça?
Non.
Pour meubler. Olivier Citruc, merci beaucoup. Je rappelle que Venise sous la neige, vous pouvez le voir demain au cinéma. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, Olivier Citruc. Voici le mot de la fin.
Moi, je remercie les gens du gouvernement de ne pas avoir eu, qu'on n'ait pas de gouvernement, sinon je ne serais pas là. Hein, ça va
arriver demain. Le mot de la fin.
Je voudrais remercier le futur gouvernement.
À Édouard Philippe qui est en train de choisir ses ministres.
J'imagine aisément l'émotion qui vous étreint aujourd'hui, car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire et de la célébrité.